C'est dommage, il était si beau. C'est dommage, il était si beau. C'est vrai que c'est pas le truc idéal pour faire du rock ou du disco, mais quand même, c'était le roi du bal. Quand ça gâchait dans les bistrots, quand ça gâchait dans les bistrots. Moi, ce qui m'enchante, ce qui me touche, c'est le genre voyou de ses mélodies. Ses accords à l'air un peu louche, qui se prennent pas pour de la symphonie, qui se prennent pas pour de la symphonie. Ces petits refrains en courant d'air, qui pètent jamais plus haut que leur cul. C'est notre coquine en tenue légère, qu'on l'air de faire de l'œil au coin d'une rue. Qu'on l'air de faire de l'œil au coin d'une rue.
Bonsoir, c'est Jazz Libre, c'est Radio Libertaire 89.4 et DAB+. N'oubliez pas de télécharger la souscription car nous avons besoin de votre soutien, d'autant qu'en ce période politique de restrictions budgétaires, je pense que nous sommes relativement exposés. Donc voilà, nous avons vraiment besoin de votre soutien pour maintenir les radios associative dont la nôtre, qui est un tissu culturel absolument nécessaire. N'oubliez pas également de consulter ma page Facebook Yves Jazzlive, sur laquelle je mets toujours la playlist, les photos des albums et le lien de téléchargement ou de podcast que vous pouvez reconsulter sur la page de Radio Libertaire, que vous pouvez consulter pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Et vous avez également l'agenda avec l'ensemble des émissions. Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez besoin de renseignements, vous m'envoyez un mail à dk51@sfr.fr. Alors ce soir, nous continuons notre hommage aux disparus. Alors nous allons évidemment commencer par Jack de Jonette, qui est un musicien essentiel, sur laquelle je vais consacrer beaucoup de temps, et parce qu'il y a une discographie prolifique. Il a joué avec absolument tout le monde, et nous allons parler de tout ça au fur et à mesure. Alors voilà, Jack de Jonette était né le 9 août 1942, et il est mort donc le 26 octobre dernier, Il était non seulement batteur génial, mais également excellent pianiste, et nous allons l'entendre en tant que pianiste. D'ailleurs, il se définissait lui-même non pas comme exclusivement batteur, mais comme musicien. Alors, la liste des musiciens avec qui il a participé est complètement sidérante, mais évidemment, on va citer les plus importantes. Il y a Charles Lloyd, que nous allons écouter dans un instant, Freddie Hubbard, le trompettiste, Kev Jarrett, évidemment, avec le trio pendant des années, mais qui ont pris dans le quartet de Charles Lloyd, puisque voilà, ils sont déjà rencontrés en 1966 à cette époque. Bill Evans, on a retrouvé les bandes, notamment avec Zeph Fellman, John Abercrombie, le guitariste, Alice Coltrane, Sonny Rollins, Miles Davis, évidemment, les fameuses faces. Joe Anderson, Michael Brecker, Pat Metheny, Herbie Hancock, Scofield, bon, vous voyez déjà, là, c'est le Gotha du jazz moderne. Il a eu le Hall of Fame en 2007 de Modern Drummer, c'est-à-dire vraiment la consécration du batteur de jazz. Il a obtenu 2 Grammy Awards et il a été nommé 6 fois pour diverses récompenses, et notamment sur sa virtuosité, son dynamisme. Alors, il a enregistré évidemment un peu plus de 35 albums sous son nom, et alors après, avec qui il a enregistré, là, ça devient complètement dément. Donc, il est né à Chicago, dans l'Illinois. Il est à noter qu'il avait des ancêtres séminoles, donc les vrais Américains, et des Crocs aussi, la tribu des Crocs. Voilà, ses parents sont partis en Californie pour trouver du travail, et puis c'est là qu'il a commencé à être dans un environnement musical, avant de retourner à Chicago, et puis de se perfectionner petit à petit. Il a également, à l'école, joué, chanté comme ténor, et puis il a même joué de la contrebasse dans un orchestre de danse. Voilà. Et puis c'est à l'âge de 13 ans qu'il a basculé, il a basculé vers la batterie, après qu'il ait travaillé également dans les clubs en tant que pianiste. Et donc il a commencé à jouer avec Bobby Miller Jr. Ensuite, il a commencé à jouer dans plein de contextes comme rhythm and blues, du hard bop, de l'avant-garde, avec les musiciens de Chicago, notamment Richard Abrahams, Roscoe Mitchell, qui avaient fondé l'association For the Advancement of Creative Musicians, la ACM, qui a été fondée en 1965. Et il a également joué occasionnellement avec l'orchestre de Sun Ra, le Sun Ra Orchestra. Mais tout va démarrer avec le quartet de Charles Lloyd, avec Kev Jarrett, Cecil McBee à la contrebasse et lui-même à la batterie, Charles Lloyd à la flûte, au ténor. Et donc, je cite toujours cette remarque de Buddy Rich, qui était un excellent batteur lui-même, mais un fieffé sale type, qui disait que ce quartet avait été la plus grande plaisanterie dans l'histoire du jazz, ce qui est évidemment scandaleux. Voilà, donc on va passer largement sur cette histoire. À partir de 68, il va jouer dans plusieurs groupes et il va commencer à jouer avec des personnalités comme Jackie McLean, la chanteuse Abby Lincoln, Betty Carter et donc Bill Evans, qui va rejoindre à Montreux en 1968. Et puis on va retrouver un certain nombre de choses. Et puis il va ensuite brièvement jouer avec Stan Getz et enfin avec Miles Davis, avec les fameuses sessions de Beaches Brew, avec Tony Williams également en second batteur, avec Dave Holland, qu'il avait déjà rencontré, donc qu'il va rencontrer et avec qui il va rejouer dans d'autres contextes par la suite. Donc, je passe sur cette période de Beaches Brew de Miles, parce que bon, moi je suis pas du tout, c'est pas mon truc, voilà, donc je vais, ça m'intéresse pas du tout. À partir de In a Silent Way, je vous le dis comme je le pense, pour moi ça n'a plus rien à voir. En revanche, il va ensuite jouer dans des contextes complètement différents, notamment avec le trio Getaway, avec John Abercrombie, donc qu'on va écouter plus tard, Al Foster, Alex Foster, Mike Richmond avec Eddie Gomez, Lester Bowie, David Murray, Arthur Blight, Chico Freeman, John Purcell. Il va évidemment faire aussi d'autres collaborations, et notamment vers la fin avec Bill Frisell, Pat Metheny, etc., etc. La liste des disques, enfin des disques, bon, je vous dis 35, mais alors après, c'est les participations en tant que sideman, elles sont, voilà, il y en a pléthore, c'est absolument impossible de tout vous indiquer. Alors nous allons commencer par moi, donc ce groupe que j'aime beaucoup, le Charles Lloyd Quartet. Et je ne crois pas en la réincarnation, mais si un jour je suis réincarné, je veux être réincarné en Charles Lloyd en 1966. Voilà, que les choses soient dites. Et donc nous allons commencer par écouter une session, une partie l'extrait d'un album qui s'appelle Dreamweaver, qui date de 1966, et je vous propose une petite suite automnale, puisque nous sommes en automne, qui s'appelle Autumn Séquence, avec Autumn Prélude, Autumn Leaves, dont je vous fais pas l'affront de vous... Enfin, vous allez reconnaître, voilà, et Autumn Echo. Voilà, et c'est parti. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4 et DAB+, donc je vais essayer de faire le moins de blabla possible. Alors, il a quand même, outre ses albums sous son nom, plus de 35, il en a plus de 210, voire 220, en tant qu'invité avec, bon voilà, je peux même pas vous dire, c'est incroyable. Voilà, je pense que si ça vous intéresse, vous regardez sur la plateforme Discog, qui est une très très chouette plateforme sur laquelle est répertoriée presque la totalité de la production mondiale en termes de disques, aussi bien jazz mais que classique, variété, rap, etc., etc. Donc c'est une mine d'or. Alors, je vous propose maintenant une petite rareté, quelque chose qui est peu connu. Il s'agit d'une formation de Eric Kloss, qui est un saxophoniste, je ne sais pas s'il est toujours vivant, je ne me suis pas renseigné, qui était en tout cas non-voyant, pour ne pas dire aveugle, et qui, l'album s'intitule The Rhythm Section, et en fait c'est une compilation de deux albums, un qui s'appelait The Ear Is To See, et l'autre, je crois que c'est Sunshine Superman, dont la deuxième partie est en collaboration avec Pat Martino. Alors là, nous n'allons pas écouter cette série avec Pat Martino, mais celle donc avec Eric Kloss, qui lui joue à la fois de l'alto, enfin à la fois, qui joue de l'alto comme du ténor, excusez-moi, Chick Corea au piano, électrique et acoustique, qui faisait, pas ses débuts, mais quasiment, hein, puisque l'enregistrement date du 22 juillet 1969, et Dave Holland, qu'on retrouve donc à la basse électrique et à la contrebasse, et évidemment Jack DeJohnette, à la batterie. Voilà, donc je vous recommande cet album. Eric Kloss est un musicien qui a beaucoup enseigné, qui a joué beaucoup également au début avec Pat Martino, et qui a été vraiment complètement oublié des radars. Et c'est bien dommage, parce que c'est un musicien tout à fait passionnant, qui malheureusement a une faible discographie. Voilà, je me permets de vous le faire redécouvrir. Le titre que nous avons écouté s'appelle « The Kingdom Within ». Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors, je ne suis pas batteur, donc je sais qu'il a eu quelques problèmes de tendinite et donc il a changé sa manière de jouer. Comme je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur la toile. Alors là, nous allons l'écouter. Donc, c'est un album qui a été enregistré sous son nom qui s'appelle Spécial Édition et qui date de 1980 et il est accompagné pour l'occasion par Arthur Blight au ténor, Peter Warren à la basse et au violoncelle, David Murray à la clarinette basse et au ténor et évidemment lui-même à la batterie mais également au piano et au mélodica et sur un thème de John Coltrane qui s'appelle India. Alors évidemment, Arthur Blight, ou Blightsy, je ne sais pas le prononcer, joue de l'alto et non pas du ténor, ma langue a fourché. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors, comme promis, je vais vous le. Jacques de Genette, en tant que pianiste, puisqu'il a fait un disque sous son nom en tant que pianiste, dont le titre d'ailleurs est tout simplement Piano Album, et le thème s'appelle Minority, et je crois me souvenir c'est de Gigi Grice, et il est accompagné par Eddie Gomez à la contrebasse et Freddie Watts à la batterie, qui, voilà, et donc Jacques de Genette joue du piano, il y a même des pièces en piano solo, et il joue également du synthétiseur, ça a été enregistré en 1985. Voilà, c'est parti. Jazz Libre, Radio Libertaire, on se demande pourquoi il n'a pas fait carrière en tant que pianiste, parce que franchement, voilà, c'est quand même assez étonnant. Je crois que c'est le seul disque qu'il a fait en tant que pianiste ou vraiment dédié. Bon, il a joué du piano dans d'autres occasions, mais de manière, je dirais, intermittente et ou en petite quantité. Mais là, bon, bah, voilà, discours pianistique totalement moderne, post-bebop, avec des influences de McCoy. Enfin, voilà, c'est. Bah, j'aimerais bien. En effet, quand il se déclarait musicien avant d'être spécifiquement batteur, effectivement, voilà, ça laisse rêveur. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Donc, nous continuons notre hommage à Jack de Jonette. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc à propos des concerts qu'on peut voir sur YouTube du quartet de Charles Lloyd. Il y a un moment donné. Je ne me souviens plus à quel endroit ça a été filmé, mais à un moment donné, il y a le tabouret de la batterie de Jack DeJohnette qui s'échappe, et ça le rend complètement fou furieux. Il essaye donc de continuer de jouer en étant debout. Mais là, vous savez, la batterie, il y a une pédale de grosse caisse et puis une pédale de Charleston, donc c'est un peu difficile. Et au bout d'un moment, il réussit quand même et tout ça est filmé, et au bout d'un moment, il réussit quand même à remettre son tabouret en place, et là, ça l'a tellement énervé qu'il se venge en tapant sur cette pauvre batterie de manière absolument incroyable. Enfin voilà, c'était pour l'anecdote. Si vous arrivez à retrouver ce film, c'est absolument passionnant. En plus que la musique est complètement, voilà, hein, comme je vous le dis, Charles Lloyd, pour moi, c'est vraiment très très bon, superbe. Alors là, maintenant, nous allons l'écouter dans un concert en 1993. De Parallel Realities, qu'il avait il s'était beaucoup investi sur cette formation, qui est une formation en platine sertie de diamant, ce qui a Dave Holland à la contrebasse, Herbie Hancock au piano et Pat Metheny à la guitare. Donc, vous voyez, voilà. Et il avait sorti un premier disque en studio et Dave Holland n'était pas disponible et il avait fait lui-même les basses, que je trouvais que c'était pas mal, mais beaucoup moins passionnant que là, en plus, en concert. Donc, évidemment, c'est un double album essentiel, hein, ça fait partie des choses qu'on emmène sur une île déserte. Et évidemment, je vous ai choisi le tube absolu d'Herbie qui s'appelle Cantaloupe Island. Voilà, je suis désolé, mais non. Ce qui est en revanche à signaler, c'est l'extrême comment dire, facilité dans laquelle il peut jouer dans n'importe quel contexte, et ça, c'est absolument génial. Il a commencé par le rhythm and blues. Alors, une petite anecdote tout à fait personnelle, je ne sais pas si Sonia m'écoutera. Puisque mon ami batteur, qui était prof à l'école d'Agostini, que beaucoup de jazzmen connaissent, Olivier, pour ne pas le citer, je lui avais fait un peu un hommage personnel, c'était son batteur de jazz préféré. Voilà, donc, et franchement, j'ai rien à dire. C'est parti.
Thank you very much. Good night. Thank you.
Vous êtes sur Radio Libertaire et c'est Jazz Libre, toujours notre hommage à Jacques Dadjonette. Alors évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de vous passer le trio avec Eve Jarrett et Gary Peacock, évidemment, parce que cette collaboration aussi longue, je ne pouvais pas l'éviter. En revanche, je vous ai choisi un thème particulier. Ça a été enregistré à Paris en public en 1999 et le thème s'appelle Poinciana, qui est, de la part de ce trio, un hommage au trio d'Ahmad Jamal avec Vernel Fournier et Israel Crosby à la contrebasse, qui est évidemment cet enregistrement mythique de 1958 au Pershing, où tout l'album est somptueux, et puis cette version est quasi définitive. Et là, Kev Jarrett s'y attaque avec un certain bonheur, voire même avec un bonheur certain. Je trouve cette version, moi qui suis très mitigé par rapport à Kev Jarrett, mais j'aime beaucoup cette version. Et puis surtout, le travail d'accompagnement derrière le chorus de contrebasse est absolument magnifique. Alors, vraiment, c'est une très très grande leçon. Et puis évidemment, Jack de Jonette avec ce tempo complètement up qui voilà, c'est attention, chef-d'œuvre. Thank you.